every day, anywhere, anytime. The Digital Gospel Journal, Ebenezer International, your station. La RCEI vous propose d'écouter Une rose dans la broussaille. Une rose dans la broussaille, une émission destinée particulièrement aux jeunes. Une rose dans la broussaille, le programme qui redonne de l'espoir à tous ceux et toutes celles qui traversent des nuits noires. Une rose dans la broussaille avec Franck Touristil, votre ami podcasteur, sur la radio qui vient vers vous pour vous servir. Ebenezer International, The Digital Gospel Journal. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et un bonjour particulier à nos jeunes qui écoutent et qui écouteront ce programme, puisque comme vous venez de l'entendre dans notre générique, l'émission leur est particulièrement destinée. C'est Franck Touristil, votre ami podcasteur, qui vous parle depuis son home studio basé en France métropolitaine dans le Val d'Oise. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que je vous retrouve pour passer ce moment d'édification en votre compagnie. Le programme vous permettra d'écouter d'édifiants témoignages qui vous aideront à comprendre combien notre Dieu agit encore de façon merveilleuse et puissante dans la vie de ceux et de celles qui le cherchent de tout leur cœur. Une chose qui m'a fort réjoui en parcourant ce CD, j'ai constaté que l'une des personnes qui vont témoigner aujourd'hui fait partie de mes amis sur le réseau social Facebook. Je bénis le Seigneur pour ce privilège et vous qui voulez avoir des preuves sur la réalité de ces témoignages, sachez bien qu'il en existe. Vous pouvez contacter au moins une de ces personnes pour avoir plus de renseignements sur ce que vous allez écouter aujourd'hui. J'aimerais profiter de cette occasion pour saluer tous nos auditeurs à l'écoute un peu partout sur les réseaux sociaux, le site Facebook, le site LinkedIn, où nous comptons plus de 9000 contacts et nous les remercions sincèrement de leur intérêt pour nos publications, que ce soit les émissions, les poèmes, les pensées. Et cela nous fait beaucoup de plaisir. Merci également aux amis qui sont sur le site Viadeo, le site Twitter, Instagram et également les auditeurs qui sont branchés via le site Spotify, TuneIn Radio. Nous avons pas mal de retours, donc nous bénissons le Seigneur et nous avons l'assurance que cette émission contribuera également à votre édification spirituelle. Hello and welcome to the Digital Gospel Channel, the Radio Ebenezer International. Thanks for joining us today for Christian programming to feed your spirit. My name is Frank Doristil, your brother in Jesus Christ, and I pray you will be blessed through your time with us today. Be sure to tell all your friends and relatives to join us at www.radioeben-ezerinternational.com. www.radioeben-ezerinternational.com. Stay there in pitch as we will give a listen to the first song entitled Prends-moi la main by the Christian artist Andréane Lafleur. Take my hand before welcoming our first guest in this program today. Avant d'accueillir notre premier participant à ce programme de témoignage destiné particulièrement aux jeunes, nous vous proposons ce morceau que va nous interpréter l'artiste québécoise Andréane Lafleur, morceau intitulé « Prends-moi la main ». Je vous souhaite une agréable écoute et vous remercie de votre intérêt pour cette radio. Ebenezer International. Une rose dans la broussaille. Une émission de témoignage sur la radio qui vient vers vous pour vous servir.
Portant secours à ceux qui sont souffrants et apporter un changement.
Vous écoutez Une rose dans la broussaille. Une rose dans la broussaille. L'émission qui redonne de l'espoir à tous ceux et toutes celles qui traversent des nuits noires. Une rose dans la broussaille avec Franck Doristil, votre ami podcasteur, sur la radio qui vient vers vous pour vous servir. Ebenezer International, The Digital Gospel Journal. Your Station. Après ce beau morceau de l'artiste québécoise Andréane Lafleur, il ne nous reste qu'à céder le micro à notre premier participant qui est le frère Guillaume Bourin, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur nos ondes.
Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je suis né dans une famille, tout ce qu'il y a de plus aimante, des parents qui m'ont vraiment beaucoup entouré. Et à vrai dire, mes parents étaient athées et m'ont éduqué avec une perspective que bien vivre sa vie était une nécessité, mais sans réellement donner un sens et un but à cette perspective-là. Et j'ai grandi ainsi, bien entouré comme un petit garçon qui était un petit peu le roi de la famille, et je crois que ces choses ont été bouleversées quand ma sœur est née. J'avais alors 7 ans, et à ce moment-là, j'ai pris conscience que mes parents allaient devoir, de mon point de vue, diviser la dose d'amour qu'ils me réservaient pour la donner à moi-même et à ma sœur. Et un certain nombre de questions existentielles ont commencé à se poser à moi. Je me suis demandé pourquoi j'étais sur Terre. Et j'ai haï ma sœur vraiment, et je l'ai détestée depuis mon plus jeune âge. Et je ne me rendais pas compte que je la jalousais, mais c'était pourtant le cas. Une deuxième grande étape, c'est quand mon grand-père est mort. J'avais alors 9 ans, et c'était peut-être une des personnes que j'aimais le plus. À ce moment-là, j'ai pris conscience que la vie avait une fin, mais c'était quelque chose que je connaissais déjà, intellectuellement, mais c'est devenu tout à fait pratique à ce moment-là. Et d'être séparé de lui, c'était quelque chose de fou, et j'ai commencé à m'interroger vraiment sur le sens même de la vie. Et je me suis posé la question, mais qu'y a-t-il après la mort? Finalement, est-ce que la vie, ce serait une fin en soi? Et si quelque chose existe après la mort, qu'est-ce que c'est? Et je me souviens, étant tout jeune, m'être posé cette question. Si tu meurs demain, est-ce que tu irais au paradis ou en enfer? Et alors le diagnostic que j'ai fait sur ma vie, petit garçon que j'étais, 9-10 ans, a été le suivant. Oui, je suis une bonne personne. Et si je devais me présenter devant Dieu demain, certainement il me sauverait sur la base de mes bonnes œuvres. Je ne me rendais pas compte à l'époque que j'étais complètement aveugle sur ma condition et complètement perdu en ce qui concerne mon attitude, car déjà tout jeune et tout petit, j'étais déjà animé de toutes sortes de mauvaises choses. L'étape suivante, ça a été quand j'étais en 6e. Je me sentais délaissé par ma famille, à tort. J'avais l'impression d'être seul au monde, une solitude profonde m'envahissait, et je cherchais à attirer l'attention des autres par des bêtises en classe toujours plus grandes, qui m'ont conduit petit à petit à faire des choses vraiment dramatiques en termes de violence. Et quand j'ai eu 11 ans, une prof de dessin, qui n'en pouvait plus de moi, a été amenée à un moment à prendre une décision forte en termes de sanctions contre moi. Et alors qu'elle recevait mes parents, elle leur a expliqué que j'étais un enfant très turbulent en classe, et mes parents ont confirmé que c'était la même chose à la maison. Et alors elle leur a proposé de m'envoyer en colonie pour l'été. Et elle leur a donné un traité pour m'inviter dans une colonie chrétienne, ce qu'ils ont fait. Et ça a été la première fois que j'ai été mis en contact avec le message de l'évangile, parce que quand je suis arrivé dans cette colonie, j'ai vu des gens complètement différents. J'ai vu des gens qui m'aimaient malgré ce que j'étais, et j'avais plus vraiment besoin de faire le pitre pour susciter leur attention. Ils avaient un vrai amour pour moi. Et je me suis senti vraiment bien. Puis on m'a parlé de Jésus-Christ, et on me l'a présenté comme quelqu'un qui voulait être mon ami, qui voulait me réconcilier avec Dieu. Et moi, je me sentais tellement seul que ce message me plaisait à un point incroyable, et je me suis dit « oui, je veux bien un ami comme Jésus-Christ ». Et un soir, alors que j'étais avec mon moniteur de camp, celui-ci m'a demandé si je voulais accepter Jésus-Christ comme mon sauveur dans ma vie. Et j'ai dit « oui, je veux t'accepter, Jésus, comme mon sauveur ». À cette époque, je savais que ce que je lisais dans ma Bible, c'était la vérité. Mais je ne me rendais pas compte, vraiment, de mon état. Je croyais vraiment être une bonne personne. Et pourtant, j'avais un vide au fond de moi, un vide sidéral, un vide infini. C'était comme si j'étais un puzzle et qu'il manquait la pièce centrale, et que cette pièce centrale, c'était Dieu. Et la taille de cette pièce était tellement grande que je pouvais chercher à combler ce vide infini en moi de toutes sortes de manières. Finalement, ça ne rimait à rien. C'était comme essayer de remplir l'espace avec des sacs poubelles. Alors à un moment donné, j'ai commencé à chercher à combler ce vide. Je me suis mis à consommer des cigarettes. J'avais 13 ans, si ma mémoire est bonne. Et à 16 ou 17 ans, j'ai commencé à consommer du cannabis. J'en suis tout de suite devenu esclave. Ça m'a conduit plus tard dans des drogues plus dures. Et comme je n'avais pas d'argent pour en consommer, j'ai commencé à en vendre à mes amis. Et ça a été le début d'un engrenage qui m'a conduit finalement à devenir de plus en plus impliqué dans le monde de la drogue, dans le monde du deal, mais également de plus en plus violent, puisque ça exacerbait des attitudes que j'avais enfouies depuis tout jeune. Et je frappais mes camarades, frappais mes amis, frappais mes parents, frappais ma petite sœur. De sorte que quand j'ai eu 19 ans, mes parents m'ont demandé de quitter le domicile familial. Lorsque je suis parti, alors à ce moment-là, ça a été la descente aux enfers. Et je suis devenu de plus en plus méchant et mauvais. Tu pouvais être mon ami jusqu'à une certaine somme. Après cette certaine somme, je ne pensais qu'à te voler. J'avais complètement oublié mes amis chrétiens. Et en 2003, une personne m'a dénoncé à la police. Je me suis fait arrêter. Et lorsque je me suis retrouvé en prison, j'ai commencé à prier encore et à relire ma Bible. Et je priais pour revoir un ami chrétien que je n'avais pas vu depuis l'âge de mes 17 ans. Quelqu'un qui s'appelle Joël et qui m'avait fait vraiment forte impression par son caractère, par sa fidélité et aussi par sa moralité. Je me disais, j'aimerais tellement être comme cet homme et être quelqu'un de bien. J'aimerais être connu non pas parce que je suis une personne vicieuse ou mauvaise, ce qui était le cas, mais plutôt connu comme étant quelqu'un de bon, quelqu'un de philanthrope qui fait des bonnes œuvres. Et cet homme était pour moi le modèle à suivre. Et j'ai juste prié en disant, je m'engage, quand je sortirai de prison, à aller voir cet homme. Je pensais avoir la force de le faire. Je suis sorti de prison, je ne pensais qu'à une chose, c'était recouvrer l'argent que j'avais perdu lors de ma cavale qui avait pris 6 mois, et puis de la drogue qui avait été saisie par la police. Et alors que je menaçais une des personnes qui m'avait dénoncé et que j'avais complètement oublié ma prière faite en prison, un soir, alors que j'étais chez mes parents, quelqu'un a cogné à la porte. Et j'ai eu comme un pressentiment, pensant que c'était la police. Et j'allais me sauver, et quand ma mère a ouvert la porte, c'était mon ami Joël. Ça faisait simplement 8 ans que je n'avais pas vu cet homme, et je venais juste de prier pour le revoir, en disant simplement un engagement comme une prière, je vais aller le voir. Or, cet engagement, je ne le tenais pas, comme tous les engagements que j'avais pris dans ma vie. Alors je l'ai simplement écouté, très rapidement, et je suis retourné le dimanche suivant à l'église. Et je crois que le dimanche suivant, le pasteur prêchait sur Romains 3, 23. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'était comme une révélation pour moi, parce que ces choses-là étaient devenues pratiques. Je l'avais observé dans la rue, je savais qu'on était tous mauvais, tous pécheurs, tous pourris jusqu'à la moelle. Je savais que notre dépravation était totale, et je savais que si je mourais demain, j'allais certainement en enfer. Contrairement à ce que j'avais dit quand j'étais plus jeune. J'avais fait l'expérience de quelque chose qu'on appelle la conviction de péché. Et tout d'un coup, je me suis dit, ma vie n'a vraiment aucun sens. Et le sens éternel de ma vie, c'est l'enfer. Je me voyais perdu. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur Dieu, je suis complètement perdu. Je voudrais être une nouvelle personne. Et je voudrais être avec toi. Mais regarde ma vie, je fais n'importe quoi. Et lorsque j'ai pris conscience que Jésus-Christ, le meilleur des hommes que la terre n'ait jamais porté, lui qui n'a jamais péché, qui n'a jamais dit une parole mauvaise, il a été tenté en toutes choses comme moi je l'avais été, sauf que lui, il avait parfaitement résisté. Que cet homme-là était venu, qu'il avait marché sur la terre et qu'il était venu mourir à la croix, et que ça pouvait être quelque chose qui pouvait me sauver si j'acceptais qu'il était mort à ma place. Quand j'ai compris cette réalité-là et que je l'ai acceptée, alors il s'est produit un profond bouleversement dans ma vie. Et tout d'un coup, j'ai eu des aspirations nouvelles, j'ai eu comme un cœur nouveau. Et j'ai commencé à vraiment rechercher des choses que je n'aurais jamais imaginé rechercher avant. Je cherchais à plaire à Dieu. J'avais une moralité retrouvée à laquelle je cherchais à m'attacher et que je poursuivais. Et j'ai commencé à avoir envie de travailler, chose qui paraît tellement incompréhensible, tellement j'étais un fainéant. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis quelqu'un de nouveau. Et le jour de mon baptême, lorsque j'ai pris l'engagement de suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin de ma vie, le pasteur a donné ce verset qui est « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'était juste ce dont j'avais fait l'expérience. Je ne suis pas parfait. Et il m'arrive encore de mettre le pied dans le fossé et de tomber dans mes propres travers, les vieux travers que j'avais d'avant. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que si la route est rocailleuse, celui qui m'a sauvé, il me tient par la main. Et il est en train de me guider vers un but précis, celui de la vie éternelle, celui de la relation éternelle avec Dieu. Et alors qu'avant, je n'avais aucune espérance de ce type-là, alors que ma vie n'avait aucun sens, alors que j'étais perdu, aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi, moi qui ne le méritais pas, aujourd'hui, je peux avoir l'assurance que non seulement ma vie a un sens, mais que ce but vers lequel je tends, il est assuré, parce que c'est pas mes œuvres, mais lui, et il a tout accompli. Merci de m'avoir écouté.
Merci également, frère Guillaume Bourin, de nous avoir fait partager cet extrait de votre témoignage. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie et nous avons l'assurance qu'il est encore capable d'effectuer ces mêmes merveilles dans la vie de ceux qui mettent en lui leur confiance. Le groupe Jude 25, dans un morceau intitulé « Je le sais », juste avant d'accueillir notre deuxième participant. Une rose dans la broussaille.
Je le sais, quelque chose de bien va se passer. Je le sais, quelque chose de bien va arriver. Il a dit, venez à moi, vous tous qui cherchez. Et je vous montrerai la vérité. Si tu es prêt à renoncer à tes idées, pour le suivre sur le chemin qu'il choisit. Je le sais, quelque chose de bien va se passer. C'est pour toi qu'il veut le faire aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile de te suivre. Le chemin est souvent dur et rocailleux. Si tu passes parfois dans des difficultés, c'est qu'il désire simplement te former. Même si tu ne comprends pas toujours très bien pourquoi il utilise tous ses moyens, laisse-le te diriger encore jusqu'à la fin, car tout ton avenir est dans sa main. Je le sais, le meilleur est encore devant toi. Vraiment pas te décourager. Il a promis qu'il ferait du bien à celui qui est sincère et ouvert devant lui. N'aie pas peur de tout ce qui va se passer. Tu sais, il ne te laissera pas tomber. Je sais, le meilleur est encore devant toi. Et tu peux vivre joie. Je le sais, quelque chose de bien va se passer. Je le sais, quelque chose de bien va arriver. Il a dit, venez à moi, vous tous qui cherchez. Et je vous montrerai la vérité. Si tu es prêt à renoncer à tes idées, pour le suivre sur le chemin qu'il choisit.
Une rose dans la broussaille, l'émission qui redonne de l'espoir à tous ceux qui traversent une nuit noire. Une rose dans la broussaille avec Franck Doristil, votre ami podcasteur, sur la radio qui vient vers vous pour vous servir. Ebenezer International, The Digital Gospel Journal, your station. Je vous remercie, chers amis à l'écoute. et chers jeunes d'être encore branchés sur nos ondes pour suivre ce programme, puisqu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui pouvaient vous tenter et vous empêcher d'être à l'écoute. C'est maintenant le moment d'accueillir une jeune fille de 20 ans qui va nous parler de ce que le Seigneur a accompli dans sa vie. Elle s'appelle Maëva et je lui dis bonjour et bienvenue sur nos ondes.
Bonjour, je m'appelle Maëva, j'ai 20 ans. L'année de mes 15 ans, à mon arrivée au lycée, j'ai fait une phobie scolaire. Un mois après la rentrée des classes, j'ai commencé à faire de grosses crises d'angoisse. Le matin, je me réveillais avec une boule au ventre et l'envie de vomir sans comprendre pourquoi. Je n'avais aucune raison de ne pas être bien. Et plus les jours passaient, plus je me sentais mal. C'est arrivé à un point où je n'arrivais plus à prendre le car ni à entrer dans une salle de cours. Et rien que le fait d'évoquer le lycée, ça m'angoissait. L'année suivante, rien n'avait changé, alors j'ai fait des cours par correspondance chez moi. J'avais redoublé ma seconde. En parallèle, j'ai commencé à voir un psy. La première fois qu'il m'a rencontrée, il m'a dit « Vous savez, Maëva, les gens comme vous, si on ne les hospitalise pas, ils restent chez eux, dans le noir, et ils ne sortent plus. » Et moi, ça me faisait peur parce que quand j'entendais l'hospitalisation, je m'imaginais couchée dans un lit, intubée de partout, et je ne comprenais pas pourquoi on voulait me faire ça. À cause de mes cours par correspondance, j'ai fini par ne plus avoir du tout de vie sociale. Et après m'être bien enseignée, j'ai accepté d'être hospitalisée parce que je ne voyais pas d'autre solution. C'était dans un établissement qui proposait des soins études à Grenoble. Donc en fait, je pouvais suivre un parcours scolaire normal avec des profs sensibilisés à nos problèmes. Et j'étais en plus de ça entourée par des infirmières, des psychologues et des médecins. La seule chose qui me contrariait, c'est que c'était dans un centre appelé Pôle Psychiatrie. Et pour moi, les gens en psychiatrie étaient tous fous et je n'étais pas folle. Quand j'ai accepté de me faire hospitaliser, j'ai commencé à faire de gros cauchemars. Ils étaient tellement angoissants et violents que ma mère était obligée de me secouer pour me réveiller. Et ça me traumatisait à chaque fois pour le reste de la journée. Puis j'ai été hospitalisée. La première année, j'ai rencontré des personnes avec les mêmes problèmes que moi. Je me sentais moins seule, j'avais retrouvé une vie sociale et j'avais plus envie de rentrer chez moi. Mais la deuxième année, j'étais fatiguée. C'était pas une fatigue physique, mais une fatigue morale. J'étais fatiguée de vivre, j'en pouvais plus de me battre contre mes angoisses. J'avais plus peur de l'école, mais j'avais peur de tout. J'avais peur de prendre le car pour rentrer chez moi, j'avais peur d'aller en ville. Et je comprenais pas pourquoi maintenant que je n'avais plus peur de l'école, j'avais toute autre sorte de peur, je comprenais pas. Un soir dans cette clinique, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Je sentais l'angoisse comme une petite boule qui me pesait sur l'estomac et ça me donnait envie de vomir. J'avais aussi cette impression de ne plus être moi-même et de devenir folle. Ce soir-là, j'ai téléphoné à ma mère pour qu'elle puisse me rassurer. On est resté longtemps au téléphone, mais une fois qu'on a raccroché, ça allait toujours pas mieux. Et ce soir-là, j'étais tellement mal que j'étais prête à aller à l'encontre de mes principes de ne jamais prendre de médicaments contre l'angoisse. Et j'attendais devant l'infirmerie qu'un infirmier veuille bien s'occuper de moi. Et soudain, j'ai senti cette petite boule d'angoisse sur mon estomac remonter le long de ma gorge, jusque dans ma bouche, et là, plus rien. L'angoisse était sortie de mon corps, je n'étais plus angoissée et tout était redevenu normal. Et à ce moment-là, il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait « Ton papa vient de prier pour toi ». Mon papa était déjà chrétien, j'avais eu la chance d'entendre parler de Dieu quand j'étais petite. Et à partir de cette expérience, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Et c'est comme ça que Jésus est entré dans ma vie. Je me suis rendu compte que je n'avais rien à faire avec mes propres forces, que c'est tout lui qui faisait pour moi. Et un jour, je lui ai donné ma vie. J'étais dans ma chambre, je lui ai demandé pardon pour toutes les fois où j'avais dû le décevoir. Puis je lui ai demandé d'entrer dans ma vie et de venir chasser mes peurs. Et c'est à partir de cette prière que ma vie a commencé à changer. J'ai appris que l'angoisse, elle se chasse au nom de Jésus et pas avec des médicaments. Parce que les médicaments, ça masque l'angoisse, mais elle est toujours là. J'ai passé mon bac, mon permis, sans angoisse, alors que je pensais que ça ferait partie des choses que je n'arriverais jamais à faire. Un matin dans cette clinique, je me suis réveillée en prenant conscience de mon état depuis quelques temps. Je me sentais bien. C'était un sentiment que je n'avais pas eu depuis très longtemps. Je trouvais ça fou, je me disais, depuis que j'ai fait cette prière, tout va mieux. Je suis finalement sortie de cette clinique, j'ai pris un appartement à Grenoble et je me suis inscrite à la fac. Et c'est là que j'ai vu le miracle de Dieu dans ma vie. J'ai réussi à prendre la parole devant 50 personnes lorsque j'ai dû faire des exposés, alors qu'avant j'étais incapable de rentrer dans une salle de classe. Et j'ai réussi tout ça sans angoisse. Une après-midi, nous sommes réunis avec de la famille et des amis chez moi, et mon oncle a dit « Lorsqu'on accepte Jésus comme son sauveur, il faut le faire avec son cœur, mais il faut aussi en parler. » Et je me suis rendu compte que j'avais accepté Jésus dans mon cœur, mais que je ne parlais pas de lui, ni de ce qu'il avait fait pour moi. Et ce jour-là, j'étais dans un état d'esprit totalement différent. Maintenant, je connaissais Dieu et je pouvais dire précisément ce qu'il avait fait pour moi. Et je me suis aussi souvenue d'une parole que j'avais reçue la première fois que j'étais allée à l'église. Et cette parole disait « Je t'ai guéri pour que tu glorifies mon nom ». Ce jour-là, j'ai ramené une copine chez elle. Dans la voiture, sur le retour, j'étais toute seule et j'ai dit à Dieu, « Jésus, tu m'as guérie. Aujourd'hui, je te donne une nouvelle fois ma vie pour que tu la diriges et que je raconte à tout le monde ce que tu as fait pour moi. » C'est depuis ce jour où je lui ai laissé toute la place, où je lui ai tout donné, que je peux vraiment dire que je suis complètement guérie. Je n'ai plus d'angoisse, je ne fais plus de cauchemars. Je n'ai pas évolué, j'ai vraiment changé de vie, je suis toute neuve à l'intérieur. Il y a ma vie d'avant et ma vie de maintenant, la Maëva d'avant et celle de maintenant. Le jour de mon baptême, j'ai raconté mon témoignage devant 500 personnes, moi qui n'arrivais pas à rentrer dans une salle de classe parce que j'avais peur du regard des gens. Dans la Bible, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, j'ai la paix en moi et je suis guérie par la grâce de Dieu. »
Aujourd'hui, j'ai la paix en moi et je suis guéri par la grâce de Dieu. Quelle déclaration! Si vous vivez la même chose qu'a vécu cette jeune fille Maëva, sachez que notre Dieu est là, il frappe à votre porte pour pouvoir entrer et opérer des merveilles, des choses extraordinaires dans votre vie également. Le groupe Jude 25, ce monde ne m'a rien donné et ne peut rien m'enlever. Bonne écoute à toutes et à tous! Avec Franck Doristil, votre ami podcasteur.
Pendant bien des années, j'ai voulu profiter de tout ce que le monde m'offrait. J'ai goûté au plaisir, mais sans satisfaction. Je m'étais fait beaucoup d'illusions. Je n'ai vraiment trouvé ce que je désirais quand Jésus qui m'a soutenu.
écoutez Une rose dans la broussaille, une émission de témoignage animée par Franck Doristil, votre ami podcasteur. Une rose dans la broussaille, un programme destiné particulièrement aux jeunes sur la radio qui vient vers vous pour vous servir. Ebenezer International, The Digital Gospel Journal, your station. Notre programme continue. Nous allons accueillir le troisième participant qui va nous expliquer comment le Seigneur l'a délivré de l'addiction à la pornographie. Nous vous souhaitons une agréable écoute et nous vous reviendrons après pour vous proposer un autre morceau en vue de votre édification spirituelle. Nous disons bonjour et bienvenue à Timothée et nous sommes prêts pour écouter son témoignage avec beaucoup d'attention.
Donc moi je m'appelle Timothée, j'ai 26 ans aujourd'hui. Quand j'étais à l'école, au collège, je me rappelle qu'on avait eu une intervention sur les addictions et on avait parlé de l'alcool, on avait parlé de la drogue. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait cité les jeux vidéo. Et je me rappelle qu'il y a quelque chose qui n'avait pas été cité. Moi j'ai grandi dans une famille de chrétiens et mes parents ils m'ont emmené à l'église tous les dimanches. Et ils m'ont appris qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien dans la vie. Et j'ai grandi avec ces valeurs et c'est des valeurs que j'ai encore aujourd'hui. Et un jour, j'ai fait quelque chose que je regrette amèrement. Et quand j'étais petit, on n'avait pas de télé chez moi. Mes parents avaient, par choix, moi je croyais que c'était parce qu'ils étaient pauvres, mais en fait c'est parce qu'ils avaient décidé, parce que ça ne correspondait pas à leurs valeurs et à leur éthique, de voir ce qui passait à la télé. Mais un jour, mon père a changé d'avis, il a décidé qu'on avait une télé, parce que justement, il fallait qu'on apprenne à choisir ce qu'on regarde et à affirmer nos valeurs, même quand que ce qu'on regarde ne correspond pas à ces valeurs. Et je me rappelle d'un soir d'être resté à la télé tard, justement avec cette envie d'aller regarder un film que je savais que j'aurais pas dû. J'avais 17 ans, je crois. C'était un film qui était interdit au moins de 16 ans. Et je me disais, oui, c'est bon, je me suis vraiment menti à moi-même. Hein. Je savais que c'était pas bien, mais j'ai quand même fait, j'ai regardé, donc c'était un film érotique. Et ce jour-là, ça a vraiment créé une forte addiction. Je pense que c'est comparable à une drogue, on dit que les gens qui prennent de l'héroïne la première fois, ils peuvent devenir dépendants à la première dose. Et là, ça a vraiment créé la même chose chez moi. Et un désir que je ne pouvais plus contrôler de retourner et de continuer à regarder ces images et ces films. Et j'avais vraiment honte. Et j'ai essayé d'arrêter de mes propres forces. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Que j'avais vraiment aucun moyen de dominer. Et c'est quelque chose dont je ne parlais pas, quelque chose que je gardais secret. Et j'étais croyant. J'ai fait une démarche de foi, je crois en Dieu, je prie à Dieu, je lui parle, et je sais qu'il m'écoute et qu'il m'entend. J'ai prié beaucoup que Dieu me libère de ça, et les années ont passé, je ne voyais pas de réponse, et je continuais de vivre avec cette culpabilité, cette honte. Et je priais, je ne voyais pas Dieu répondre, et je ne comprenais pas pourquoi Dieu qui m'aime ne m'aide pas à m'en sortir, et pourquoi il ne résout pas mon problème. J'ai continué à vivre, et les années ont passé, et je vivais toujours avec ça, et je portais toujours cette honte, et malgré tous mes efforts, ça empirait, ça devenait de pire en pire. Et j'ai grandi et je suis parti habiter tout seul, j'étais plus chez mes parents. J'ai une meilleure connexion internet. Et de juste regarder des vidéos érotiques, je suis passé à fréquenter des sites pornographiques et à regarder des vidéos plus réalistes. Et je me trouvais de plus en plus misérable et j'avais de plus en plus honte de moi. Et je réalise que ça crée un cercle vicieux où j'ai de plus en plus honte et j'ai de plus en plus besoin d'être guéri. Et au lieu de chercher cette guérison là où j'ai besoin, j'allais chercher un plaisir qui allait juste apaiser ma souffrance du moment. Quelques minutes, quelques secondes et le problème n'était jamais résolu. Et je continuais à prier Dieu, à crier à Dieu, mais Dieu vraiment a fait quelque chose. Et je réalise après que je rejetais ma responsabilité. Je remettais la faute sur Dieu alors que c'est ma faute. J'ai réalisé que c'était un problème qui était trop grand pour que j'en sorte tout seul. Et qu'il allait falloir que je demande de l'aide et que c'était en fait ça la solution. Justement pour sortir de ce cercle de honte qui me renvoyait encore à essayer d'apaiser ma souffrance de la mauvaise manière. J'ai réalisé que c'était à moi de prendre ma responsabilité et à moi d'en parler. Et là j'ai commencé à prier non plus que Dieu me délivre et que Dieu enlève mon désir parce que c'est un désir qu'il a créé pour nous et Dieu veut pas nous enlever le désir sexuel parce que c'est vraiment un don qu'il veut pour l'espèce humaine et c'est quelque chose qu'il veut qu'on vive de la bonne manière. Et donc là, j'ai commencé à prier pour que je trouve quelqu'un à qui parler et que, oui, quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui j'aurais le courage de raconter ça, quelqu'un qui pourrait m'aider à m'en sortir, justement. Et à peu près à la même époque, j'ai fait cette décision de quitter mon travail et je suis parti. Aussi pour ces raisons, je suis parti vivre 2 ans sur un bateau, faire de l'humanitaire. Je savais que j'allais vivre dans un espace réduit avec d'autres personnes. Et je savais qu'on n'aurait pas accès à Internet de la même manière. Je savais que j'allais me mettre comme ça dans une situation où je me protégeais. Et je m'empêchais moi-même de faire ce que je déteste. Ouais, alors que justement je priais pour trouver quelqu'un à qui parler quand j'ai passé un entretien pour aller sur ce bateau. J'ai eu l'occasion de parler à quelqu'un qui m'a juste demandé si on avait des problèmes avec des addictions, de la drogue ou de l'alcool ou de la pornographie. Et j'ai dit oui. J'ai pu m'ouvrir, j'ai pu dire ce que je vivais. Et plus vivre dans le secret et plus vivre seul avec ma honte, mais de pouvoir la partager. Je crois une année plus tard, j'ai pu partager à un ami, un de mes meilleurs amis, cette partie de ma vie. Il était mon meilleur ami et quelque chose que j'avais jamais partagé avec lui, jamais osé. Un jour, j'ai osé le faire, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, voilà, ça c'est moi, c'est qui je suis vraiment. Ça a été incroyable parce que à ce moment-là, je me suis senti accepté pour qui j'étais vraiment. Et pas pour qui j'essayais de montrer, ou pas pour qui je faisais croire que j'étais. Mais... Et là, j'ai vu que Dieu avait répondu à mes prières, pas de la manière dont j'espérais. Pas en résolvant le problème à ma place, mais que Dieu m'avait accompagné, que moi je résous le problème. Et je sais aussi que ce Dieu en qui je crois est un Dieu qui fait grâce. C'est un Dieu qui m'a pardonné. C'est un Dieu qui supporte pas que je vive quelque chose de mauvais. C'est aussi un Dieu qui connaît mon cœur et qui sait que je veux pas faire ce que je fais. Et qui me pardonne. Aujourd'hui, je vis complètement libre. Je suis tellement reconnaissant à Dieu qui m'a aidé, qui m'a accompagné dans tous ces moments, qui a permis que je rencontre les bonnes personnes à qui parler, qui a été tellement patient, qui a pris des années pour m'aider à vivre dans la liberté. Je vis en paix, avec juste le souvenir de mes erreurs, mais aussi avec la joie d'être complètement libre.
Gloire à Dieu. Voilà ce que notre Seigneur est encore prêt à accomplir dans votre vie si vous lui faites confiance. Écoutons Dany et Moïse Urtrel dans un chant intitulé « La liberté » avant le dernier témoignage à notre émission « Une rose dans la broussaille ».
Tu as laissé les hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté ? Ont-ils su bien l'utiliser? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Tu ne pourras jamais comprendre ce grand mystère, toi le créateur de tout l'univers, qui pourrait sonder tes voies et connaître tes pensées. Et les hommes lèvent le poing contre le ciel, sans penser que si tu voulais, sur leur vie tu pourrais bien inscrire le mot fin. Mais tu as laissé les hommes libres de choisir, libre de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? Ont-ils su bien l'utiliser? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Tu as placé sur le chemin de tous les hommes la possibilité de rencontrer celui qui change la vie, apportant le vrai bonheur. Seulement tu n'as jamais obligé personne, tu ne forces pas les cœurs. Oh Seigneur, que tous ceux-ci choisissent la vie, car tu as laissé les hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Ont-ils fait de leur liberté? Ont-ils su bien l'utiliser? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots
sens la liberté de te choisir, ou alors de te rejeter.
Tu m'as laissé les hommes libres de choisir, libre de préparer ou non leur avenir. Ont-ils fait de leur liberté? Ont-ils si bien l'utilisé? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu soumettre à ta volonté, faire de nous des propos sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter.
Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté que tous ici, au Seigneur, choisissent la vie.
Vous écoutez Une rose dans la broussaille. Une rose dans la broussaille. Une émission de témoignage destinée particulièrement aux jeunes. Une rose dans la broussaille avec Franck Doristil, votre ami podcasteur. Quand j'écoute ces édifiants témoignages, j'ai envie de crier waouh, waouh. Si je n'avais pas déjà donné ma vie au Seigneur, je me demande qu'est-ce qui pouvait m'empêcher de le faire? D'ici quelques instants, nous allons mettre fin à notre émission, mais il nous reste un autre témoignage à vous faire vivre. C'est bien Noémie, à qui je dis bonjour et bienvenue sur nos ondes.
Bonjour, moi c'est Noémie, j'ai 22 ans. Il y a maintenant plus de 6 ans, c'est à l'âge de 13 ans, que j'allais au collège, comme tous les jours. J'étais alors en 5e. Et un garçon me dit « On t'appelle dans le bâtiment X. » Et je l'ai suivi. Et tout simplement, il s'est passé que il a abusé de moi. Il m'a enlevé ce que mes parents me disaient depuis mon enfance. C'était ce qu'il y a de plus beau, plus cher à offrir à un homme. Et depuis ce jour, ma vie a basculé. Je grandissais, j'étais adolescente. Mon corps, forcément, grandissait aussi avec moi. Et j'avais une haine intérieure que je ne pouvais pas exprimer. Et je l'ai exprimée avec simplement de l'abus de confiance envers les garçons. Je ne ressentais rien pour les garçons, si ce n'est que de la vengeance. Je voulais juste m'amuser. Tout ce qu'on m'avait pris à 13 ans, je voulais juste qu'on le paye. Honnêtement, tout le processus qu'il y a eu entre 13 ans et, je vais dire, 18 ans, ça a été assez difficile, parce que j'aimais la vie. Et forcément, avec cet abus, j'avais qu'une envie, c'était de profiter. J'enchaînais les garçons. Pour moi, il n'y avait pas de conséquences. En ajouter un, c'était un privilège. Mais au final, je me suis rendu compte, quand je suis venue à Dieu, que ça a été des souffrances immenses. Pour moi, j'avais plus de valeur. Et vraiment, quand j'ai rencontré Christ, quand son amour m'a envahi, j'ai réalisé qu'il m'aimait, qu'il me pardonnait de tout cela, et que c'est comme si il s'était rien passé. Il y a juste une chose qui était importante, qu'il fallait que je fasse. Il fallait que j'aille voir ce garçon et lui dire pardon. Pardonne-moi de t'avoir haï pendant tout ce temps, d'avoir voulu ta mort. Et je suis partie le voir et je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit, voilà, je te demande pardon. Et il a commencé à pleurer, il m'a dit « mais je comprends pas ». Je fais « est-ce que tu te souviens de moi, ce que tu m'as fait à 13 ans ?» Il m'a dit « oui, je me souviens très bien ». J'ai dit « je l'ai pas oublié, je t'ai souhaité la mort. Aujourd'hui, je viens te demander pardon et je te souhaite tout le bonheur du monde ». Et c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Honnêtement, beaucoup ne comprendront peut-être pas, mais en Dieu, j'ai trouvé un bonheur absolu. Quand je vois les garçons aujourd'hui, j'éprouve un grand respect que je n'avais pas auparavant. J'arrive à respecter un homme, j'arrive à le voir comme un être humain qui a un cœur. Moi qui, quand je les voyais, pour moi, il n'avait pas de cœur, pour moi, il n'avait pas de sentiment. Il n'y avait que nous, on s'attachait, mais non, l'homme aussi s'attache. Et aujourd'hui, j'éprouve un respect et un amour profond qui vient du ciel. Et je peux dire que oui, je suis rescapée. Parce que je m'imagine aujourd'hui, dans cette vie, à enchaîner les garçons, tout ce que ce monde nous offre, je ne sais pas où je serais. mais vraiment je remercie Dieu et sa grâce divine qui m'a rescapée.
Un témoignage qui se termine comme les autres par une note d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait. Avant la conclusion de l'émission, je vous propose un chant de l'artiste chrétien Olivier Chouroy intitulé « Persévère ». À vous tous qui venez d'écouter ces témoignages, qui sans doute avez pris une décision de marcher avec le Seigneur, de lui confier votre vie pour qu'il puisse la transformer radicalement et vous permettre de vivre les mêmes choses qu'ont vécu ces personnes. Après cette décision, il faut aussi de la persévérance, parce que la tentation viendra de baisser les bras, de revenir dans son passé, dans son ancienne vie. Comptez sur l'aide du Seigneur qui vous aidera à aller de l'avant malgré vents et marées. L'artiste chrétien Olivier Chouroy du Québec dans un morceau intitulé « Persévère ». Bonne écoute à toutes et à tous. Une rose dans la broussaille, une émission de témoignage destinée à tous les jeunes. Une rose dans la broussaille avec Franck Doristil, votre ami podcasteur.
Un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. La chose arrive quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, 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 persévère. s'accomplira.
Every day, anywhere, anytime, the Digital Gospel Journal, Ebenezer International, your station. Voilà qui met fin, chers amis à l'écoute, à cette première édition de ce nouveau programme « Une rose dans la broussaille ». Ce m'était un vrai plaisir de passer en votre compagnie ces précieuses minutes à l'écoute de ces édifiants témoignages. J'aimerais remercier sincèrement tous les jeunes qui nous ont accordé leur attention pendant ces 60 minutes. Et si jamais le Seigneur vous a parlé, si vous sentez dans votre cœur le désir d'expérimenter les mêmes transformations qu'ont expérimenté ces personnes qui viennent de témoigner, sachez que la démarche n'est pas compliquée. Vous n'avez tout simplement qu'à reconnaître vos péchés, à les confesser à notre Seigneur Jésus-Christ et de l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. La prochaine démarche, ce sera de vous procurer d'une Bible pour apprendre sa parole. Commencez à lire les évangiles. C'est là que vous trouverez les conseils sur une nouvelle marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous aurez également à chercher une assemblée dans votre ville, dans votre coin, une assemblée chrétienne, bien évidemment, pour rencontrer des frères et sœurs qui vous donneront plus d'informations concernant cette nouvelle vie que vous voulez vivre. Avant de partir, j'aimerais remercier sincèrement les frères et sœurs de Trésor Média qui nous ont offert les CD contenant ces édifiants témoignages pour nos émissions. Nous en rendons gloire à Dieu. Je remercie également tous les artistes qui ont apporté leur contribution à la réalisation de ce programme. Commençons par l'artiste québécoise Andréane Lafleur, le groupe Jude 25, Danny et Moïse Utrel, l'artiste Olivier Choua, ainsi que le groupe Vine Song de l'Angleterre à qui nous devons notre générique. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étiez branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie sincèrement de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de « Une rose dans la broussaille ». C'était pour vous servir au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur et également pasteur pour ce ministère, Franck Doristil, qui vous dit une fois de plus, merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment et au revoir. Vous venez d'écouter Une rose dans la broussaille. Une rose dans la broussaille. L'émission qui redonne de l'espoir à tous ceux et toutes celles qui traversent une nuit noire. Une rose dans la broussaille avec Franck Doristil, votre ami podcasteur, sur la radio qui vient vers vous pour vous servir. Ebenezer International, The Digital Gospel Journal, your station.
Ton cœur ce soir, j'ai